France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Versailles, 1972, l'affaire Marquet. Le 29 novembre 1972, à Versailles donc, et à 20h30 précisément, des coups de feu éclatent à l'hôtel de police. Mohamed Diab, 32 ans, meurt sur le coup. Le policier qui a tiré, Robert Marquet, parle aussitôt de légitime défense. Il décrit un prévenu violent, déséquilibré, impossible à maîtriser. La famille de Diab parle, elle, d'un meurtre raciste. Alors que s'est-il réellement passé ce soir-là? Pourquoi un homme gardé à vue se retrouve-t-il criblé de balles? Et que dit cette affaire de la France de cette époque? Une France qui, un an plus tard, va plonger dans la crise avec le choc pétrolier de 73, frappée qu'elle sera par le chômage et où l'immigré deviendra bouc émissaire. Ici, l'affaire Marquet, du nom du policier suspecté, et non pas l'affaire Diab, du nom de la victime, la confusion est fréquente dans les faits divers, vient troubler l'ordre feutré de la ville de Versailles. Car la famille de Mohamed refuse de se taire. Elle réclame justice. Et autour d'elle, intellectuels et militants se rassemblent. Notre invité aujourd'hui, Rachida Brahim, autrice de La race tue deux fois, une histoire des crimes racistes en France, livre publié en 2020 aux éditions Sileps. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Florence de Talouette, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnant, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Versailles, 29 novembre 1972. Il est un peu plus de 17h lorsque Mohamed Diab pousse les portes de l'hôpital de la ville. Il vient, comme chaque jour, visiter sa mère. Une routine. Il arrive toujours en fin d'après-midi, reste un moment et repart tout aussi discrètement. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Dès qu'il entre dans l'hôpital, son agitation est visible, son regard fuyant, ses gestes nerveux. Il traverse le hall d'un pas rapide, s'arrête, tourne en rond, s'agite. Lorsqu'il pousse la porte de la chambre de sa mère, c'est pour y ressortir aussitôt les traits crispés. Les infirmières l'observent du coin de l'œil. Elles ont l'habitude des patients désorientés, des familles à cran. Mais ce soir, Mohamed Diab ne leur semble pas simplement inquiet, non. Son comportement est erratique. C'est au moment où il entre de nouveau dans la chambre de sa mère pour y déposer sur la table de chevet un sac rempli de viande crue qu'elles interviennent, parce que c'est formellement interdit. Mohamed Diab doit remballer son paquet et quitter les lieux. De toute manière, l'heure des visites touche à sa fin. Les doigts crispés sur le sac, Mohamed Diab se fige. Son regard s'accroche aux deux infirmières, sa mâchoire se contracte, un silence lourd s'installe. Puis d'un coup, la colère explose. Il hurle qu'il ne partira pas, invective les infirmières. Puis soudain, arrache sa chemise et défait son pantalon. En quelques secondes, il se tient là, en sous-vêtements, au beau milieu du couloir. Le personnel médical est stupéfait. Alors, une infirmière attrape le téléphone et appelle la sécurité. Alertée par un voisin, la sœur et la femme de Diab accourent à l'hôpital. Quand elles arrivent, deux hommes en uniforme tentent de l'embarquer. Mohamed résiste, se débat, hurle de nouveau qu'on les laisse tranquilles. Les deux femmes s'interposent, supplient, expliquent qu'il est psychologiquement instable, mais qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Personne ne les écoute, on emmène Diab au commissariat. Le directeur départemental de la police des Yvelines rapporte ainsi les événements.
Nos gardiens ont été appelés par téléphone à l'hôpital, ce qui arrive fort souvent, pour se saisir d'un individu qui refusait de sortir et qui causait du scandale. Effectivement, ils ont trouvé dans la loge de la concierge, M. Diab, qui était assis les pieds sur le bureau et qui commettait réellement un attentat à la pudeur.
Il est environ 20h30 lorsque Mohamed Diab arrive au commissariat. Mais très vite, la situation dégénère. Dans la salle de garde, trois policiers sont présents. Les brigadiers Tiberghien et Ramon Doux, ainsi que le sous-brigadier Robert Marquet. Diab, lui, est toujours aussi énervé, confus. Il réclame sa femme et sa sœur, qui arrivent quelques minutes plus tard, en hâte, à pied. À peine sur place, sa femme, Zara, 26 ans, est immédiatement conduite dans un bureau. Sa sœur, Fatma Salioui, 27 ans, reste dans le hall d'entrée, accompagnée de ses voisins. impuissants, les deux tournant rond. Elles sortent dans la cour prendre l'air. À travers une fenêtre, elles observent la salle où Mohamed Diab se débat. D'abord fouillé, puis injurié, il ne se laisse pas faire. Alors l'un des policiers l'empoigne par le col et le frappe violemment. Puis tout bascule. Diab s'empare d'une chaise, il la brandit. Le brigadier tibérien reçoit un coup en pleine tête et s'écroule. L'autre policier, Ramondou, recule, tente d'intervenir, mais lui aussi est frappé. Il chute, sonné. Le sous-brigadier Marquet s'avance alors, mais il n'a pas son arme de service sur lui. Le détail ici a son importance. Il fait un pas en arrière, puis se retourne brusquement vers un placard qu'il ouvre d'un geste sec. Et il attrape un pistolet mitrailleur. Un instant de flottement, puis une rafale, trois balles. Le silence retombe. Mohamed Diab s'écroule, touché au thorax. Son souffle s'arrête net. Il meurt sur le coup. Sa sœur se précipite, mais on la bloque. Elle crie, elle a vu. Au JT de 20h, elle témoigne. Son fils lui sert d'interprète.
Ils étaient en train de le fouiller.
Ils
l'ont frappé sur les deux côtés en le maintenant sur le mur. Elle leur a crié, ne le frappez pas, il est très malade. Ils leur ont demandé de sortir, toutes les deux. Et ils ont fermé la porte derrière elle. Lorsqu'ils l'ont frappé, Monsieur Diab a pris une chaise et a commencé à taper sur les deux autres. Tous les deux se sont mis à le frapper. La personne qui tira a pris le pistolet mitrailleur et lui l'intima de rester sur sa place. Mais après, il s'est relevé. Il leur a demandé s'il voulait tirer sur lui. La personne qui tira lui répliqua, « Oui, je vais tirer sale race. » Lorsqu'il tira une en haut au plafond et deux autres sur la personne de M. Mohamed, ayant pris les deux balles dans le corps, il s'effondra au pied d'une porte, à côté du comptoir.
Quelques heures plus tard, le procureur de Versailles reçoit un rapport. La version officielle parle de légitime défense. Mais est-ce aussi simple ? Mohamed Diab n'est-il qu'un forcené incontrôlable ? Et même si c'est le cas, depuis quand abat-on un homme en garde à vue dans un commissariat ? Essayons de comprendre. Versailles, début des années 70. La ville a la réputation d'être un bastion bourgeois et conservateur, où l'histoire semble figée dans un décor royal suranné. De grandes avenues froides sans magasins. Ici, tout respire l'ordre, la tradition. Et pour certains, l'ennui. Le château, les jardins taillés au cordeau, les avenues majestueuses bordées d'arbres centenaires, des trottoirs nettoyés au coton-tige. La ville est une vitrine. Ici, rien ne dépasse. Pourtant, à quelques rues du château, une toute autre réalité coexiste. Des barres d'immeubles HLM, construits en urgence dans les années 60 pour loger les travailleurs immigrés, côtoient d'austères foyers Sonacotra, qui accueillent des hommes venus d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie. Plus loin, en périphérie, des bidonvilles s'étendent encore. La misère dans ces baraquements de tôle. Et c'est là que Mohamed Diab vit, dans le bidonville de Porchefontaine, à 2 kilomètres à peine du château. Écoutons une habitante témoigner de ce quotidien précaire.
Je suis une immigrée en France. Nous sommes généralement très très mal logés, parqués dans des bidonvilles sordides, comme par exemple dans le bidonville de Porchefontaine à Versailles, où il n'y a pas de chaussée, des poubelles sont renversées, les maisons à moitié détruites, les enfants n'ont de lieu pour jouer que les ruines et les ordures, ils ne peuvent jamais être propres. Dans ce bidonville, il y a des familles de 8 gosses qui n'ont que 2 pièces pour vivre, souvent sans chauffage. Nous sommes vraiment dans la misère, nous sommes comme des esclaves.
Le matin, les Versaillais croisent donc ces travailleurs invisibles qui partent tôt, la tête baissée vers les chantiers et les usines. Mohamed Diab, lui, grimpe dans son camion, prêt pour une journée de route. Le soir, il rentre en silence, épuisé. À Versailles, à condition qu'ils restent à leur place, ces immigrés sont tolérés, car la France a besoin d'eux. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'économie tourne à plein régime, la croissance bat son plein. La main-d'œuvre venue du Maghreb, peu regardante sur les conditions de travail et sur les salaires parce qu'elle n'a pas le choix, est vue comme une aubaine par les industriels. Mais voilà qu'à partir de 1970, le vent tourne. Les premiers signes de ralentissement économique apparaissent. Le chômage grimpe. Face à cette situation qui se dégrade, certains cherchent des coupables. Et peu à peu, une idée fait son chemin. Si le travail manque, c'est à cause de l'immigration. L'ennemi est tout désigné, genre ennemi intérieur. C'est ainsi qu'au début de l'année 72, quelques mois avant l'assassinat de Mohamed Diab, le gouvernement Chaban-Delmas serre la vis. Deux nouvelles circulaires, les circulaires Marcellin-Fontanet, tombent. Objectif, réduire drastiquement l'entrée des travailleurs étrangers en France. Désormais, sans un contrat de travail et un logement, il est impossible d'obtenir un titre de séjour. Une exigence très difficile à remplir pour des milliers de travailleurs précaires, souvent employés au noir. Les expulsions s'accélèrent. À cette montée des crispations autour de la question migratoire, qui est en vérité une question de l'accueil, s'ajoutent des relations franco-algériennes de plus en plus tendues. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Ici, les résonances sont saisissantes. Et puis le 24 février 71, un séisme politique secoue les rapports entre Paris et Alger. L'Algérie nationalise des avoirs pétroliers français.
L'Algérie nationalise les ressources de gaz et les oléoducs et s'octroie 51% du capital des sociétés pétrolières françaises. Extrait de la traduction officielle du discours prononcé par le président algérien, nous avons décidé de porter la révolution dans le secteur du pétrole. Je proclame officiellement la participation algérienne dans toutes les sociétés françaises est portée à 51% de façon à en assumer le contrôle effectif. La nationalisation des gisements de gaz naturel, la nationalisation du transport terrestre, c'est-à-dire de l'ensemble des canalisations.
Les compagnies pétrolières algériennes reprennent donc le contrôle de leurs hydrocarbures. Et les entreprises françaises, habituées à considérer le pétrole algérien comme une chasse gardée, encaissent. Ce coup de force économique envenime des relations déjà tendues entre les deux pays. Et il exacerbe la stigmatisation des immigrés, qui pour nombre d'entre eux sont précisément algériens. Partout en France, les actes racistes se multiplient, notamment dans le Sud, où après le meurtre d'un chauffeur de bus par un Algérien à Marseille, en août 73, la violence explose. Au moins 12 Maghrébins sont tués en quelques semaines, principalement à Marseille, tandis que des ratonnades, agressions et humiliations se produisent presque quotidiennement. Nous vous le racontions mardi dernier dans l'épisode sur le centre de rétention illégale pour immigrés dans le hangar d'Arinque, sur le port de la Joliette à Marseille. Cette vague de violence suscite une réaction inédite et donne un élan à des premières mobilisations. Oui, pour la première fois, des travailleurs sans papier et des immigrés s'organisent et prennent la parole. À l'été 72, une organisation voit le jour, le Mouvement des Travailleurs Arabes, MTA. Il s'agit de défendre les droits des travailleurs immigrés, dénoncer les violences policières et lutter contre les discriminations grâce à des rassemblements, des manifestations, voire des grèves de la faim. Rachid, membre du mouvement, raconte les débuts de cette mobilisation dans « Compter sur ses propres forces », un documentaire réalisé en 1972.
Après la nationalisation du pétrole par le gouvernement algérien, il y a eu une véritable campagne raciste qui a été montée. Alors ça a commencé par les journaux. Minute, dehors les Algériens, ils nous chassent, chassons-les. Puis toute la presse, de l'Aurore jusqu'au Figaro. Cela donnait dans les usines... Pas de pétrole, pas d'embauche. Cela donnait dans les cafés, pas de pétrole, pas d'alcool pour les Algériens et pour les Arabes. Après cela, ça a été la liquidation physique. Il y a eu au moins 150 assassinats. On en trouvait quotidiennement, toutes les semaines, dans le canal Saint-Martin, par exemple, dans le 19e. Dans la Seine, la plus grosse provocation, ça a été l'assassinat d'un jeune Algérien, Jelal Ibn Ali, en pleine goutte d'or, en plein quartier arabe. Tous les ouvriers arabes se sont sentis concernés parce qu'ils ont vu que ce que visaient les racistes, c'était à les mettre à genoux, à les démoraliser.
Derrière ces violences, c'est un passé qui ne passe pas. Un fantôme persistant, celui de la guerre d'Algérie et de la colonisation qui a forgé un racisme quasi structurel. À Versailles, ici, ce racisme ne s'affiche pas au grand jour. Il se murmure dans les cercles fermés. Transparaît dans les attitudes, se devine dans les silences. Et ce n'est pas un hasard si Pierre Sidos, ancien membre de l'OS, cette organisation secrète née pour défendre l'Algérie française par la violence, choisit d'y organiser le premier congrès national de son groupuscule, l'œuvre française. Le 13 octobre 1970, le journal Le Monde revient sur ce congrès de Versailles et détaille les prétentions de ce nouveau mouvement xénophobe.
Le mouvement L'œuvre française a tenu à Versailles son premier congrès national. Monsieur Sidos a annoncé la naissance d'une droite française socialiste, patriote, intelligente et moderne. Les orateurs de cette droite ont demandé que l'on rende la France aux Français et ont affirmé que ceux qui hier grattaient leurs puces sur les bords du Danube et de la Vistule étaient devenus les maîtres de la France.
Au sein de la police, ces thèses trouvent chez certains un écho particulier. La relation entre les Algériens et les forces de l'ordre reste marquée par l'héritage colonial. Nous sommes 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie, c'est à la fois peu et beaucoup. Et les mêmes logiques et habitudes perdurent. Les contrôles aux faciès, la surveillance ciblée et les violences systématiques. D'ailleurs, le commissariat, ancienne caserne de Noailles où Mohamed Diab trouve la mort, n'est pas un lieu anodin. Ce bâtiment est, pendant la guerre d'Algérie, l'un des centres névralgiques de la répression en métropole du mouvement indépendantiste algérien, le FLN. 10 ans plus tard, les murs sont restés les mêmes, et peut-être les méthodes également.
Écoute-moi, oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même si paroles sont froides, tu dois les sentir pour autant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face. Elle changera à chaque instant. Combien elle t'a pris pour un imbécile, mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Sois un peu fier, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non? Je te comprends, ce n'est pas facile, car où tu marches, tu crées son nom.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Marquet à Versailles.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Pourquoi a-t-il tiré ? Je pense qu'il a estimé qu'il était en danger et c'était la seule solution. Ou bien il tirait, ou bien Diab s'emparait de l'arme.
Que pensez-vous, monsieur le directeur, du sous-brigadier Marquet ?
C'est un fonctionnaire de 52 ans, calme. Évidemment, c'est un homme de taille moyenne, qui n'a rien de l'athlète, et qui se trouvant devant un véritable forcené qui mesure 1m80, qui était déchaîné, il a estimé que la vie de ses camarades et la sienne était en danger.
Le soir même du drame, la préfecture des Yvelines relaie la version officielle de la police on vient d'entendre. Mohamed Diab est décrit comme un homme incontrôlable et menaçant. Il aurait été abattu alors qu'il tentait de se saisir de l'arme d'un des policiers. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Versailles. Tandis que l'inspection générale des services, la police des polices si vous préférez, se charge de l'enquête administrative. Rapidement, les deux investigations convergent vers la même hypothèse, légitime défense. Donc, affaire classée, pas si vite. Deux universitaires, Pierre Albouache et Jean Chesneau, professeurs à l'université Paris 7, décident de mener leur propre enquête. Ils écoutent les témoins, recoupent les informations, creusent les contradictions. Et leur conclusion révèle une toute autre vérité. Mohamed Diab n'était pas au corps à corps avec le sous-brigadier Robert Marquet lorsque celui-ci a tiré. Diab ne s'est pas rué sur lui. Il n'a pas tenté de s'emparer de son arme. Il était à une distance suffisante pour ne présenter aucune menace immédiate. Pourtant, après l'avoir insulté racialement, Marquet a tiré délibérément. Alors, pas question de laisser l'affaire s'étouffer. Les journaux s'emparent du drame et relaient l'indignation de la famille Diab qui exige justice et vérité. Et le journal L'Humanité écrit...
S'il est vrai que Mohamed Diab a été dénudé, humilié, forcé à se mettre les mains sur la tête, si cela est vrai, la mort d'un homme au commissariat de Versailles se place dans un contexte tout autre que celui d'un malade mental abattu accidentellement par un policier. Les mesures vexatoires ressemblent fort, ressemblent trop à une ratonnade. Et l'on comprend dès lors que tout se soit terminé par un drame. Et l'on ne peut que se souvenir des paroles que prononçait, à l'heure où se déroulait le drame, un commissaire de police à la télévision. « La police va vers l'humain, la main tendue. » Si cela doit être comme au commissariat de Versailles, il est à craindre que le divorce entre la police et la population ne s'accentue.
Radio Alger, de son côté, évoque une ratonnade policière digne des pires heures coloniales et conclut... L'hypothèse d'un passage à tabac, expression d'un racisme anti-arabe, anti-algérien et qui aurait provoqué la réaction violente de Mohamed Diab est plausible. Il s'agissait d'un Algérien, d'un Arabe. Alors, excès de zèle. On l'interroge avec des arguments frappants, comme dirait le général Massu. Dès le lendemain, l'ambassade d'Algérie à Paris exprime son indignation auprès du Quai d'Orsay, dénonçant un crime intolérable contre un travailleur immigré. Le 9 décembre 72, 15 jours après la mort de Mohamed Diab, un collectif de 137 intellectuels, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Genet, Michel Foucault et 131 autres personnalités, publie un appel retentissant et décide d'organiser une manifestation. L'indignation se structure.
Nous attirons chez nous des ouvriers de pays européens pauvres comme l'Espagne ou le Portugal, et de nos anciennes colonies pour les affecter à des travaux pénibles dont les ouvriers français ne veulent plus. Sous-payés, menacés d'expulsion s'ils protestent, parqués dans des logements immondes, il fallait justifier leur surexploitation qui devient un rouage essentiel de l'économie capitaliste française. Ainsi naquit un nouveau racisme qui voulait faire vivre les immigrés dans la terreur et leur ôter par là l'envie de protester contre les conditions de vie qui leur étaient faites.
Et nous disons que les crimes racistes qui se passent ne doivent pas rester impunis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous organiserons avec les camarades émigrés et français dans des comités antiracistes, contre les racistes, contre ceux qui veulent tuer pour protéger leur intérêt. Un bas le racisme.
Le samedi 16 décembre, à 16h, la marche part du métro Bonne Nouvelle et se dirige vers le ministère de la Justice, place Vendôme, à Paris. Mais la préfecture interdit le rassemblement, prétextant des risques de troubles à l'ordre public. Ce qui ne suffit pas à dissuader la foule. Plusieurs milliers de personnes se rassemblent. Les portraits de Mohamed Diab et les banderoles sont nombreuses. Justice pour Mohamed, halte aux crimes sexistes. une pension pour la famille Diab, scandent les manifestants. Très vite, des affrontements entre la police et les manifestants éclatent. Les coups pleuvent, le bilan est lourd, 161 personnes sont interpellées, certaines poursuivies pour participation à un attroupement interdit. Parmi les personnes placées en garde à vue, il y a Michel Foucault. Il raconte son arrestation.
Nous étions 45 dans une cellule de 20. Des camarades sympathiques, mais je n'envisageais pas avec plaisir de passer la nuit dans un si petit endroit avec tant de monde. Vers 10h15, alors même où ils vous libéraient, une voix a crié très distinctement « Monsieur Foucault, vous êtes libre ». C'était un piège pour me désolidariser des autres. Et naturellement, je n'ai pas accepté. Ils ont tous libéré vers minuit. Reste à savoir s'ils ne restaient pas ailleurs d'autres Nord-Africains.
Après cette manifestation et les incidents qu'elle a provoqués, intellectuels et responsables de la CFDT publient un communiqué dans lequel ils dénoncent les violences policières contre les manifestants et rapportent qu'un gardien de la paix aurait déclaré « J'espère bien que 10 ratons seront flingués d'ici à un mois ». Le policier n'est pas désavoué par son brigadier. Le communiqué conclut « Discrimination raciale ouverte, matraquage aveugle et systématique ». On peut se demander jusqu'où iront certains policiers. C'est dans ce climat de tension que Mohamed Beljaoui, ambassadeur d'Algérie en France, rend au Quai d'Orsay. Il exige des garanties du gouvernement français. Alger attend des engagements clairs. La protection de ses ressortissants et des mesures concrètes contre les violences racistes. L'Algérie insiste sur le fait que la France joue son image sur la scène internationale. Noël Moudjahid, quotidien algérien, le ton se fait cinglant. À Paris de choisir, à la veille du sommet des pays non alignés, quel visage la France veut-elle montrer au tiers-monde ? Serait-ce celui d'un pays à l'image des États-Unis rongé par le racisme ? Serait-ce celui d'une terre où s'épanouissent la xénophobie et la violence contre les sous-développés ? Le 27 septembre 1973, lors d'une conférence de presse, le président Pompidou déclare
« Quelle politique vous souhaitez mener pour la lutte contre le racisme et pour améliorer le sort en France des travailleurs immigrés qui ne sont pas tous de distingués gentlemen anglo-saxons ?»
Vous savez, les distingués gentlemen anglo-saxons, n'est-ce pas, sont quelquefois capables d'erreurs, eux aussi, comme les Gaulois et comme les Nord-Africains. La France est profondément antiraciste. Le gouvernement français est fondamentalement antiraciste. Et tout ce qui ressemble au racisme, nous l'exécrons.
Mais au-delà de ces déclarations, les actes se font attendre. Quelques mois plus tard, le 14 décembre 1973, une déflagration secoue le centre de Marseille. Une bombe explose au consulat d'Algérie. Bilan, 4 morts, 12 blessés graves parmi les membres du consulat. L'attentat est revendiqué par un groupuscule d'anciens de l'OAS et de nostalgiques de l'Algérie française. Le club Charles Martel, celui qui a vaincu les Arabes à Poitiers au Moyen-Âge, le héros des racistes idéologues en France. Quoi qu'il en soit, l'opinion publique est sous le choc. La passivité de la police est pointée du doigt et les agressions contre les Algériens se multiplient. C'est dans cette atmosphère délétère que s'ouvre le procès du sous-brigadier Robert Marquet. Nous sommes en octobre 1975. À la barre, Albert Lévy, secrétaire du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, témoigne. Un silence lourd s'installe dans le prétoire lorsqu'il commence à décrire cet engrenage où l'insulte peut se transformer en meurtre.
Ce qui s'est produit au commissariat de Versailles est un phénomène bien connu des psychologues et des sociologues qui ont étudié le racisme. De l'insulte à l'humiliation, de l'humiliation aux coups et aux menaces, jusqu'au geste fatal, la tension monte. Celui qui possède la force se grise du sentiment de sa supériorité. Et dans ce jeu tragique du chat et de la souris, celui qui domine s'exalte d'autant plus que sa victime lui résiste. L'ultime expression de sa puissance, c'est la suppression totale de cet autre qu'il méprise, qu'il hait de plus en plus, qu'il tient à sa merci. Tout ici illustre ce racisme des petits blancs, frustrés, humiliés, qui croient se grandir en écrasant plus faible qu'eux, un arabe traité en sous-homme dangereux. On a beaucoup parlé de la démence de Mohamed Diab, mais ne peut-on pas, à titre d'hypothèse, envisager qu'une poussée de rage raciste s'est emparée du sous-brigadier Marquet ?
Le président du tribunal finit par rompre le silence et se tourne alors vers Robert Marquet pour lui demander frontalement « Êtes-vous raciste, monsieur Marquet ?» Sans hésitation, Marquet réplique « Non, j'ai des amis nord-africains ». Gisèle Halimi, avocate de la famille Diab, ne laisse pas passer cette réponse indigente. Elle se lève vivement et rétorque « On connaît aussi beaucoup d'antisémites qui disent avoir des amis juifs ». La tension monte d'un cran dans le tribunal correctionnel de Versailles. Les plaidoiries s'enchaînent, les arguments s'affrontent. L'objectif de la défense de Mohamed Diab est limpide. Ce drame ne peut être réduit à un accident. Non, il est le symptôme d'un système gangréné par le racisme. D'ailleurs, le dernier témoignage vient appuyer cette thèse. Un commissaire de police, présent lors des faits, confirme que Mohamed Diab et le sous-brigadier Marquet n'étaient pas encore à corps au moment du tir. Sa déclaration est accablante. Pour les avocats, l'affaire ne relève donc pas d'un simple délit, c'est un crime. Les faits sont là. Reste à savoir si la justice les reconnaîtra.
L'audience est ouverte.
Après plusieurs jours de plaidoirie, le tribunal correctionnel conclut qu'il s'agit d'un crime et non d'un délit, ce qui dépasse sa compétence. Le dossier est donc transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation, chargée de statuer sur le chef d'inculpation. Homicide volontaire ou coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Marquet fait appel, bien sûr, et le jour de l'audience, il fait parvenir un certificat médical pour excuser son absence. L'audience est donc reportée. Les lenteurs de la justice et les recours successifs permettent à l'affaire de traîner quelques mois, quelques années. Le 13 janvier 1977, lors de l'Assemblée régionale de l'Amicale des Algériens à Marseille, Abdelkrim Gerayeb, qui en est le président, prend la parole pour dénoncer les lenteurs de la justice française face aux crimes racistes. Et son ton est sans appel.
Nous assistons à un double blocage. D'abord, au niveau de la recherche et de l'arrestation des agresseurs. Ensuite, quand par hasard un agresseur est traduit devant la justice française, c'est l'appareil judiciaire qui est lui-même bloqué. Il existe en réalité deux poids et deux mesures. Si l'agresseur est algérien, il lui est infligé de lourdes condamnations. Si la victime est algérienne, son agresseur bénéficie de mesures de liberté provisoire, comme celle qui a été accordée au policier meurtrier de Mohamed Diab à Versailles.
Mai 1980. Après 8 ans d'instruction, de reports et de batailles judiciaires, la chambre d'accusation de Paris clôt l'affaire. Elle décide qu'il n'y a pas de charge suffisante pour juger Robert Marquet en cour d'assises. Le sous-brigadier est donc blanchi. Parce que la justice estime qu'il s'est trouvé en état de légitime défense, ripostant à ce qu'elle qualifie d'attaque actuelle réelle et injuste. La réaction de Marquet, estime la cour, n'était donc pas disproportionnée. L'affaire est classée, circulée. Dans le même temps, la justice exonère la famille de Mohamed Diab des frais de justice, reconnaissant que leur constitution de partie civile était légitime. Maigre soulagement. Henri Noguer, président de la Ligue des droits de l'homme, s'exprime quelques jours plus tard dans le journal Le Monde.
Certes, l'enquête a établi que le brigadier Marquet avait ce jour-là dans le sang une dose d'alcool qui lui rendu inapte à conduire un véhicule automobile. Peu importe. Certes, la chambre d'accusation ne conteste pas que la victime ait pu être injuriée et giflée. Peu importe. Certes, la chambre d'accusation admet qu'à aucun moment il n'y avait eu ce corps à corps invoqué par Marquet pour sa défense. Peu importe. Il est exemplaire que cette décision soit rendue au moment même où le Parlement est saisi par le garde des Sceaux d'un projet renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. Un projet dont on nous a dit qu'il a notamment pour objet de mettre un terme à l'insupportable laxisme dont font preuve les magistrats à l'égard des criminels coupables des plus graves violences.
Dans les années qui suivent, la colère gronde. Un matin de 1983, quelques jeunes des quartiers populaires de Marseille se mettent en marche. Ils n'ont pas d'armes, juste leurs pieds, leur rage contenue et l'espoir que la France les regarde enfin. Ils marchent pour l'égalité et contre le racisme. Ville après ville, leur message se propage. Arrivés à Paris, ils sont plus de 100 000, une marée humaine pour réclamer haut et fort la reconnaissance des violences racistes et des discriminations systémiques. Le message est entendu. Le gouvernement s'engage. Désormais, le mobile raciste devra être pris en compte dans les infractions. Mais entre les promesses et les réalités, il y a des années de surplace. Il faut attendre en effet 2003 pour que la France inscrive enfin dans la loi l'intention raciste comme circonstance aggravante.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Marquet à Versailles en 1972. Notre invité, Rachida Brahim. Alors, vous êtes enseignante, chercheuse au LINCS à l'Université de Strasbourg et vous êtes l'autrice de La race tue deux fois, une histoire des crimes racistes en France de 1970 jusqu'à 2000, un ouvrage tiré de votre thèse. Quelles ont été, tout d'abord, vos principales difficultés pour documenter ces crimes, tant le déni de racisme est fort?
La principale difficulté, je dirais, c'est l'accès aux sources, puisque le crime raciste n'existe pas en tant que tel. C'est pas une catégorie pour laquelle on peut trouver des archives, des index, des listes entières. Donc il a fallu vraiment faire un travail de fourmi pour aller déterrer ces affaires, j'allais dire en auscultant différentes archives de la presse, des associations judiciaires, du ministère de l'Intérieur, du Parlement. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai pu relever 731 cas sur une trentaine d'années d'affaires dénoncées comme étant des crimes racistes, dont l'affaire Diab.
Alors c'est d'autant plus difficile quand on dénonce un crime raciste de la part de la police.
Absolument, c'est il y a des l'intérêt c'est que du coup les archives se recoupaient, qu'on trouvait l'affaire dans la presse, dans la bouche des militants, qu'on l'a retrouvée après au ministre de l'Intérieur, donc tout ça fait un faisceau de disons de dénonciation, mais quand ce sont des affaires policières, effectivement, c'est très dur d'avoir accès aux sources, effectivement.
Dans votre ouvrage, vous parlez de la figure du travailleur arabe que représente Mohamed Diab dans l'imaginaire français de l'époque.
Dans l'imaginaire et puis dans la politique de l'époque aussi, puisque à cette période-là, en 72, on est 10 ans seulement après la guerre d'indépendance algérienne, et il y a une immigration algérienne qui est très forte en France, qui est passée, si mes souvenirs sont bons, de 425 000 à 850 000 quasiment, migrants algériens qui arrivent en France. Et cette hausse n'était pas du tout attendue par le gouvernement français. Et il y a toute une politique qui va se mettre en place et qui vise vraiment à freiner cette immigration algérienne. Et une opération, disons, de stigmatisation va avoir lieu. La figure du travailleur arabe, c'est un peu une figure stigmatique à l'époque. Mmh. Et les hauts fonctionnaires de l'immigration vont par exemple produire une série de notes qui visent à montrer le problème que pose cette immigration en France. Et notamment donc à souligner un ensemble de traits culturels, physiques, qui montrent le stigmate à l'œuvre, qui montrent le danger à l'œuvre et le caractère tout à fait inassimilable de cette population en France.
Et alors le racisme latent ou carrément exprimé de façon claire de la part d'une partie de la population est une affaire grave, mais de la part de la police, on peut considérer que c'est encore plus grave. Observe-t-on des schémas récurrents dans la manière dont la police traite les personnes racisées en garde à vue?
Oui, absolument. Il y a des schémas tout à fait récurrents qui visent... La légitime défense est régulièrement invoquée. Il y a une banalisation des faits, souvent. Et puis, il y a une décrédibilisation de la victime qui va être jugée elle-même responsable de ce qui lui arrive. Et le fait que, par exemple, le meurtre de Diab n'ait pas pu recevoir une qualification raciste s'inscrit aussi dans une longue chaîne. Par exemple, en 72, 73, en ces années-là, vous avez nommé la relation franco-algérienne. Mmh. L'Algérie, à ce moment-là, envoie des listes d'hommes morts ou agressés pour cause de racisme d'après eux, et demande à la France donc des comptes, qu'est-ce qui s'est passé et quelles ont été les suites judiciaires données à ces affaires. Le travail du côté des fonctionnaires français est assez saisissant, puisque le ministère de l'Intérieur va demander aux préfectures, aux polices départementales de faire remonter les incidents impliquant des Nord-Africains. Et ce qu'on observe dans cette chaîne qui se met en place de fonctionnaires, c'est que les affaires vont être réécrites ou écrites de manière à gommer systématiquement la dimension raciste des affaires, justement.
Donc on gomme.
Ça, c'est une constante.
Bien sûr, on gomme. Il y a un déni de racisme. Absolument. Et alors, on va jusqu'à criminaliser les victimes, finalement, parfois.
Tout à fait, exactement. Et d'autant plus dans le cas, effectivement, des affaires policières qui sont nombreuses, où on va nier toute responsabilité quand il y a des plaies ouvertes, des ecchymoses, des contusions, parfois des traces de strangulation qui sont relevées par les consulats. Mmh. Et on va mettre en scène la manière dont l'homme arabe est un homme fou ou ivre. On dit qu'il est malade des nerfs, qu'il a les intestins fragiles. On retrouve comme ça un ensemble de caractéristiques qui seraient propres au Nord-Africain et qui fait qu'il va lui-même se blesser ou arriver déjà amoché ou alors s'auto-mutiler lui-même dans sa cellule.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire des sous-brigadiers marquée à notre invitée Rachida Brahim. Je rappelle que vous êtes l'autrice du livre « La race tue deux fois », une histoire des crimes racistes en France de 1970 à 2000, livre publié en 2020 aux éditions Silèves. Alors, on lisait, la stratégie de criminalisation de la victime est une constante dans les affaires de crimes racistes que vous avez analysées. Donc, effectivement, on ne devrait pas parler de l'affaire Mohamed Diab, qui est la victime, mais de l'affaire Robert Marquet, qui est le coupable présumé et qui a été blanchi par la justice au bout du compte. Quand vous avez enquêté sur ce type d'affaires, parce que vous avez cité plusieurs, lesquelles pourrait-on retenir qui ont valeur d'exemple à travers un ou deux exemples? Si vous aviez à les choisir, ce seraient lesquels?
Et qui mettent en scène, du coup, cette manière de déverser la responsabilité.
Mmh. Mmh.
En 73, par exemple, je pense à l'affaire qui a eu lieu à Fresnes et qui met en scène deux gendarmes, il me semble, dans mes souvenirs, qui vont se rendre dans un appartement pour faire une perquisition avec un soupçon de vol d'un adolescent. Ça fait 4 fois qu'ils viennent et que la perquisition est illégale, dans mes souvenirs également. Et quand ils rentrent dans l'appartement, ils trouvent les parents et les jumeaux de la famille qui ont 8 ans et ils vont se procéder à un interrogatoire au sein même de l'appartement. Et notamment prendre la petite Malika qui a 8 ans et l'interroger dans une chambre. Elle va y rester un quart d'heure, je crois, avec ce gendarme. Et quand elle sort, elle s'effondre au sol et elle meurt des coups qu'elle a reçus durant cet interrogatoire.
Mmh.
Et la famille, il y a une mobilisation qui va s'en suivre, comme c'est très souvent le cas. Et il s'avère que les gendarmes vont mettre en cause le père de la famille en disant qu'ils l'ont vu gifler la petite et qu'ils ne sont pas entrés dans l'appartement puisqu'ils n'étaient pas autorisés à le faire. Donc un discours qui est diamétralement opposé, des témoignages qui sont tout à fait différents d'un côté comme de l'autre.
Oui, mais évidemment cette affaire est frappante. En 1972, alors on voit émerger des mouvements comme le mouvement des travailleurs arabes, le MTA. Mmh, mmh. Quel rôle ces organisations ont-elles joué dans la dénonciation des crimes racistes et l'évolution de la législation? On va écouter d'abord ce qu'en pense l'épouse de Mohamed Diab. Mmh.
Que justice soit faite, que cette affaire soit jugée normalement. Car mon mari n'a rien fait et celui qui l'a tué est toujours en liberté. Si c'était un arabe qui avait tué quelqu'un, il serait déjà en prison. Comme il s'agit d'un français qui a tué un arabe, on ne lui a rien fait. Depuis que mon mari est mort, je ne vis que grâce aux allocations familiales.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Son témoignage recoupe celui de nombre de familles de victimes depuis les années 60, je dirais, voire au-delà. Et effectivement, le rôle des mouvements qui ont accompagné ces familles de victimes a été très important pour rendre visibles ces affaires et l'injustice qui les caractérise. Le MTA, notamment, effectivement, a eu un rôle central puisque leur but était vraiment d'être présent dès que l'affaire éclatait pour pouvoir énoncer la vérité de la famille, de la victime, avant que le discours public officiel ne s'en saisisse. Et ça a été une récurrente, les manifestations également organisées, les grèves de la faim, les grèves dans les usines, et aussi la mise en place d'enquêtes populaires qui ont été très importantes.
Donc c'était efficace, cette mobilisation, quand même.
Fondamentale, à mon sens fondamentale, comme toutes celles qui continuent à avoir lieu aujourd'hui, à chaque fois qu'un événement de ce type a lieu. Vous avez cité la marche du 83, et ce sont des grands, disons, collectifs, mais c'est vraiment les comités vérité, justice qui se créent systématiquement ont une importance fondamentale.
Touche pas à mon pote, c'était un tournant.
Controversé parce que pour le coup c'était perçu par beaucoup de personnes concernées, militantes de terrain, comme une récupération politique.
Oui.
et un affichage politique qui donnait pas forcément lieu à des choses concrètes.
Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Quelle était votre intention?
C'est un livre qui date, c'est une thèse en fait.
Oui, donc, c'est bien. Hein.
Quand j'entre en thèse, moi, à ce moment-là, c'est il y a longtemps, hein, c'était en 2015, hein, 2000, oui, environ. Et disons que moi, j'avais une impression d'une violence que je ne pouvais pas bien cerner, déterminer. Et je crois que je voulais me donner les preuves de cette violence que je percevais sans pouvoir la nommer.
Alors aujourd'hui, quel est votre regard concernant cette thématique? Aujourd'hui, en France, bon, on voit ce qui vous a révolté, mais qu'est-ce qui vous donne l'espoir? Précisément, aujourd'hui, de façon concrète, à travers, je sais pas, ou des projets de loi, ou des comportements policiers qui se seraient améliorés.
Dans l'affaire Malikade que je citais tout à l'heure, un membre de la famille a écrit un livre sur cette affaire et elle cite par exemple le fait que elle, ce qui lui a vraiment donné espoir, c'est de voir qu'un syndicat de policiers avait écrit une lettre pour s'excuser au nom de la police de cette affaire-là et de ce qui arrivait à Malika. Dans mon cas, vous avez parlé de la loi de 2003 aussi. La loi de 2003, elle est à ce jour très peu mobilisée, à ma connaissance. Parce qu'en fait, il faut que l'auteur des faits ait énoncé un propos, écrit quelque chose de raciste, pour que le mobile soit reconnu et qu'il soit l'objet d'une circonstance aggravante. Donc, et puis aujourd'hui, je travaille en plus sur la question des violences sexuelles. Donc, disons que j'ai un prisme très général d'une violence systémique, structurelle, produite par les rapports de domination, qui laisse a priori peu d'espoir. Mais ce qui est intéressant quand on travaille sur la question de la violence, c'est qu'en creux, c'est aussi une histoire de la résistance, qui est aussi longue que l'histoire de la violence, aussi pérenne et forte. Et que ça, c'est... Il y a une image qui est intéressante. Dans les traditions autochtones, on parle d'un monstre cannibale qui est absolument insatiable, qui veut toujours plus de chair, de cœur, d'enfants, de femmes, d'hommes, d'esprits à fracturer. Et on l'appelle le Wetiko, qui est vraiment le mal absolu, et qui pourrait ressembler à ce qu'est le capitalisme aujourd'hui et à l'impact qu'il a eu sur les rapports sociaux, disons. Mmh. Et en face de ce grand Wetiko, il me semble avoir observé qu'il y a des feux, des manières de faire le feu pour tenir la bête éloignée en fait. Ouais. Et ces feux qui brûlent un peu partout à travers le monde depuis aussi longtemps que le Wetiko sévit sont pour moi une grande source de même pas d'espoir en fait, mais qui montrent que quelque chose reste à l'œuvre et continue à vivre.
Bien, mais ce sera le mot de la fin, Rachid Abrahim. Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Mohamed, l'affaire Marquée. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.